Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au Capi.
Que dit la loi sur les licenciements abusifs? Vous savez, les cas des licenciements abusifs sont fréquents en République démocratique du Congo. Pour une raison ou pour une autre, une entreprise peut mettre à la porte ses agents sans respect de la législation en la matière. Les travailleurs sont remerciés sans avoir reçu leur indemnité de sortie. Leurs revendications ne sont pas souvent prises en considération par l'employeur. Et alors, quelle est donc la voie des recours en cas de licenciement abusif? On en parle avec notre invité, Maître Jean Keba, avocat près de la Cour d'appel de Matadi. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment la loi définit le licenciement abusif?
Le licenciement abusif, c'est une rupture du contrat de travail décidée par l'employeur au mépris des conditions prévues par la loi. Peut-être qu'il faut commencer par rappeler que le travail, c'est un droit de l'homme, un des droits humains,
oui,
qui est reconnu par la Constitution et consacré par le Code du travail. Alors, ce travail, en tant que droit, est protégé par la loi. Et la même loi prévoit dans quelles conditions il peut être mis fin à un contrat de travail. Et lorsque un employeur décide de mettre fin à ce contrat de travail, sans observer toutes les exigences de la loi, à ce moment-là, le licenciement est appelé abusif. Donc, il y a une rupture abusive du contrat de travail.
Alors, d'abord, quelles sont les raisons qui peuvent amener un employeur à licencier, à mettre à la porte ses agents?
Les conditions sont limitées par la loi. D'abord, il peut s'agir de raisons liées à l'aptitude professionnelle du travailleur ou à sa condition de travail.
Oui.
Il peut s'agir d'une faute lourde commise par le travailleur. C'est-à-dire, le travailleur affiche un comportement qui contrarie sévèrement aux exigences professionnelles ainsi que aux exigences de son contrat.
Mmh.
Dans ce cas-là, lorsque l'employeur constate que la faute commise par le travailleur est tellement extrême qu'elle ne peut pas continuer à travailler avec lui, il peut décider, la loi l'autorise à pouvoir décider de rompre. Là, c'est une rupture ou licenciement pour faute lourde. Et lorsqu'il constate que soit le travailleur n'est pas compétent ou il affiche une négligence qui lui cause préjudice, et après avoir observé, il peut décider de rompre le contrat pour ces raisons-là, mais là, ce sera avec préavis. C'est-à-dire qu'il accordera au travailleur un délai, en dehors duquel, suivant son ancienneté, suivant son rang de prestation, pour mettre fin à son contrat. Il notifie que voilà, je mets fin à son contrat, mais tu dois observer un préavis de autant qui doit être calculé aussi, payé suivant leur contrat, les droits qui y sont prévus.
Et généralement, le préavis de combien de temps?
Donc, le préavis varie suivant l'ancienneté du travailleur. Ça se calcule d'un cas à l'autre.
Oui. Alors, certains disent qu'il y a aussi les licenciements peut-être pour des raisons économiques.
Pour des raisons économiques, oui, effectivement. Lorsque l'entreprise connaît des difficultés, ou suite à une crise économique ou financière qui affecte l'activité de l'entreprise, celui-ci peut décider de pouvoir résilier le contrat d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs. Mais dans ce cas, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du ministre ayant le travail dans son attribution. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est prévue, une enquête doit être ouverte et le ministère passe aux inspecteurs du travail doit vérifier les raisons évoquées. Si elles sont fondées, il peut être autorisé. Mais s'il le fait sans respecter cette procédure, sans l'autorisation de l'autorité habilitée par la loi, là, le licenciement intervenu sera déclaré abusif.
Est-ce que vous avez déjà eu à traiter des cas de licenciement abusif?
Bon, plusieurs, il y en a beaucoup.
Pouvez-vous nous donner les genres de cas qui reviennent souvent?
Bon, souvent, d'abord, il faut dire que chez nous, malgré les dispositions légales qui sont assez suffisantes pour protéger le travail et le travailleur, mais les employeurs licencient les gens comme bon leur semble.
Comme ils veulent, sans respect de la loi.
Sans respect de la loi, et généralement, comme ils sont économiquement forts, et ils étouffent les travailleurs qui souvent aussi ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas à qui s'adresser, comment faire pour obtenir justice. Il y a beaucoup de cas que nous avons reçus au niveau de notre organisation la SADO et aussi d'autres qui l'ont traité en tant qu'avocat, consulté par les travailleurs. Nous avons les cas de la RVA, par exemple, qui excelle en matière de licenciement abusif. Et si vous allez au tribunal du travail, vous verrez qu'il y a eu une longue liste de dossiers. Chaque jour que les affaires passent, vous ne manquerez pas de dossiers de la RVA au nombre de 5 ou 6. Et ça, c'est un exemple que je connais parce que nous avons eu à traiter beaucoup de cas. Il y a, même aussi dans le secteur public, nous avons connu la révocation de plusieurs fonctionnaires. Il y a 3 ans, je crois, dans des conditions non prévues par la loi.
Même dans les entreprises privées, il y a souvent des cas de licenciement.
Il y en a plusieurs, oui, plusieurs. Et surtout chez les privés, là, n'en parlons pas.
Oui. Et c'est-à-dire que du jour au lendemain, on décide de mettre quelqu'un à la porte et c'est fini, tu pars, donc tu ne viens plus, on ne te donne rien.
Bon, généralement, ils donnent quelque chose, mais sans observer la procédure. Ce qui importe, c'est quoi? C'est de voir qu'est-ce que la loi dit. Est-ce que la décision que nous prenons, c'est conforme à la loi?
Par exemple, pour quelqu'un qui a fait 10 ans dans une entreprise, quelle est la procédure pour le faire partir?
Non, la procédure est la même. S'il a commis une faute, comme je l'ai dit au début, une faute lourde, l'entreprise constate et résilie immédiatement le contrat. Et là, c'est sans préavis. Mais s'il estime que la personne affiche d'insuffisance ou sa conduite n'est pas exemplaire sur le travail et que cela nuit aux intérêts de l'entreprise et qu'il faut mettre fin au contrat, il doit le notifier. Qu'il voilà pour telle raison. Et cela se fait aussi par écrit. Nous décidons de mettre fin à ton contrat et ton préavis est de l'ordre 2 au nom de nombre de jours. On calcule ses droits et on doit lui payer. Et dans les 48 heures, on doit
Le calcul des indemnités des sorties s'est fait sur base de quels critères? C'est par rapport à l'ancienneté?
Il y a l'ancienneté, il y a le grade occupé par le travailleur. Et on doit aussi observer les conditions, les avantages auxquels il avait droit. Et c'est principalement les conditions qui sont les éléments qui sont pris en compte pour pouvoir calculer ses indemnités de sortie.
Et généralement, il semble que généralement, on ne donne pas aux gens cet argent-là. Par rapport à l'ancienneté, par rapport à tout ce que vous dites là, certains entrepreneurs, employeurs ne tiennent pas compte de cela.
Bon, pas tous, mais en grande majorité de cas, beaucoup d'entreprises ou d'employeurs ne respectent pas ces conditions. Souvent, elles décident d'autorité de ce qu'ils doivent donner aux travailleurs. Et maintenant, ce qui est de plus en plus courant, c'est que l'employeur peut imposer au travailleur qui est dans une position de faiblesse. Une transaction. Comme quoi tu viens signer ici, nous sommes mis d'accord pour mettre fin au contrat. Et si tu ne signes pas, monsieur, je vais te révoquer, tu n'auras rien. Mais comme l'entrepreneur est en faible, sans avoir le temps de se faire conseiller ou assister, généralement il signe. Mais après avoir signé, quand il va consulter un avocat, il se rend compte qu'il avait été dupé. Et cela, dans la plupart des cas, est considéré comme étant une licenciement aussi abusif. C'est-à-dire que l'employeur a usé de sa position dominante pour imposer sa logique au travailleur, donc l'obliger à signer ce qui n'a pas eu le temps de bien apprécier, de bien discuter, de bien comprendre, afin de voir si tous ses droits sont observés ou pas.
Et pour des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années sans contrat de travail, comment ça se passe si on va le mettre à la porte? Il y a des gens comme ça qui ont travaillé comme des journaliers, ou ils n'ont jamais signé de contrat, mais ils sont là pendant plusieurs années.
Bon, la loi est claire. Ce que la loi dit est que le contrat de travail doit être écrit. Et s'il n'est pas écrit, il est verbal. De par la loi, il est réputé à durée indéterminée et conclu entre les deux parties. Mais c'est l'ignorance qui fait que dans la plupart des cas, les gens peuvent être utilisés pendant 3 mois, voire des années, comme journalier, sans être conséquent. Et lorsqu'on le remet à la porte, il ne sait pas à qui s'adresser. Mais dès lors que tu as déjà fait avec un employé plus de 2 mois, ininterrompu, sans contrat de travail, la loi, du fait qu'il n'y a pas un écrit, alors que c'est une exigence, la loi sanctionne le travailleur et l'employeur plutôt en réputant ce contrat-là écrit et conclu à durée indéterminée. Et lorsque un tel travailleur est licencié, il a le droit de pouvoir aller saisir l'inspecteur urbain du travail de son cas, qui doit constater, prendre en compte le temps pendant lequel il a passé avec cet employeur et l'interpeller pour qu'il vienne en séance de conciliation. et on doit le considérer comme il avait été engagé à durée indéterminée.
Bien, que dit la loi sur les licenciements abusifs? Maître Jean Keba, avocat près de la cour d'appel de Matadi, est notre invité aujourd'hui. Des questions et préoccupations, composez les 081-890-63-94. Nous avons déjà en ligne Albert Mwananga de Kananga.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Que dit la loi sur les licenciements abusifs? Albert, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kanchama et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Nous sommes contents vraiment de suivre la radio Kapi parce que nous avons souffert ici à Kananga pendant 75 heures de ne pas suivre la radio Kapi. Merci beaucoup.
Oui, allez-y.
Oui, j'ai deux questions à poser à notre invité. La première, c'est de savoir, est-ce que celui qui est chassé par l'entreprise peut-il porter plainte et dans quelle mesure qu'il peut porter plainte, si possible? Ça, c'est la première question.
Oui, chassé pour quel motif, par exemple?
Peut-être à cause de la irrégularité, et donc de ne pas afficher un bon comportement donc au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il peut porter plainte là-dessus, avec quelle preuve alors? Ça, c'est la première question.
Oui.
Et la deuxième, j'aimerais un peu savoir si l'invité, qu'est-ce que l'invité peut envisager vis-à-vis des entreprises qui chassent ou qui révoquent les travailleurs dans l'ignorance de la loi? Est-ce qu'il y a-t-il un programme déjà déjà envisagé pour qu'on puisse un peu vulgariser ça? C'est ça un peu ce que je voudrais un peu savoir.
D'accord. Maître Jean.
Ok, merci Monsieur Albert pour vos préoccupations. Est-ce qu'un travailleur qui est licencié peut-il porter plainte et dans quelle mesure, avec quelle preuve? Je pense que nous l'avons déjà dit en commençant. Tout travailleur dont le contrat est abusivement résilié, donc qui est licencié en violation de la loi, a le droit de devoir porter plainte. Et la plainte est portée devant l'inspecteur du travail de votre ressort. Donc dans chaque ville, il y a un inspecteur de travail qui est là pour recevoir des plaintes individuelles. Des plaintes relatives aux conflits individuels de travail.
Mmh.
Donc si vous avez travaillé et vous estimez que la décision prise par l'employeur ne respecte pas les exigences prévues par la loi, puisque tout licenciement doit avoir un motif valable. Lorsque vous jugez que le motif n'est pas valable, vous avez le droit de faire une plainte que vous déposerez à l'inspecteur. Et l'inspecteur est appelé, après la réception de la plainte, de vous entendre, de convoquer ou d'inviter l'employeur et de commencer ce qu'on appelle la procédure de conciliation. Donc il doit tenter d'aider et le travailleur et l'employeur à pouvoir se mettre d'accord sur base de ce que la loi prévoit et des prétentions de l'un et de l'autre. Et s'il arrive à constater qu'en fin de compte, malgré tous les efforts qu'il a fait et les débats entre parties, il n'y a pas une conciliation, il n'y a pas accord pour qu'il y ait une solution conciliée, à ce moment, il dresse ce qu'on appelle le procès-verbal de non-conciliation, qui donne droit aux travailleurs maintenant d'aller saisir le juge du travail. Voilà ce que la loi prévoit. On vous en demande dans quelle mesure? C'est dans la mesure où le travailleur trouve que le motif avancé par l'employeur n'est pas valable. Dès que vous avez votre décision de révocation, de licenciement, c'est un élément suffisant qui vous donne le droit de pouvoir vous plaindre et à obtenir justice.
Alors, après l'établissement du PV de conciliation, les dossiers seront transférés au tribunal?
Oui, après le PV de conciliation...
De non-conciliation, excusez-moi.
Le travailleur adresse une requête au juge du travail, donc c'est-à-dire devant le tribunal du travail. Et celui-ci devra convoquer, suivant la procédure qui est prévue, il y a des frais qu'il faut payer, des consignations et autres, pour que les deux parties puissent se retrouver devant le juge du travail et l'instruction de l'affaire commence jusqu'à ce qu'ils puissent plaider et être départagés par le juge.
Doudou nous appelle de Mbujumayi, Rachel est à Kinshasa. Doudou, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute.
Bon, j'ai juste une seule question que je vais poser à l'invité. Si dans une entreprise, on trouve qu'il y a plusieurs employés qui sont chassés pour une raison quelconque, est-ce que si ces employés si ces employés partent au niveau de la justice pour se plaindre, est-ce qu'une telle démarche peut bien aboutir? C'est ça ma seule question. Quelles sont les procédures à suivre?
Procédure à suivre, d'accord. Voilà. Je crois que l'invité l'a dit tout à l'heure, il a donné la procédure à suivre. On va accueillir Rachel et puis je reviens à vous. Rachel, bonjour. Rachel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai juste une question à poser à l'invité. Je voudrais un peu savoir, avant de détourner, le travailleur détourne l'argent. Là aussi, l'employeur est à l'obligation de faire recours à la loi avant de virer les travailleurs ou comment?
D'accord, merci. Maître Jean Keba.
Ok, merci. Bonjour Doudou et Rachel. Et merci pour vos questions. Le problème que pose Doudou, je crois que là vous parlez de conflits collectifs de travail dans le cas de licenciement massif de travailleurs. Je crois que le principe est le même. Ce qui importe, c'est de voir si la décision prise par l'employeur est conforme à la loi. Si l'employeur a respecté toutes les conditions prévues par la loi ainsi que la procédure. Mais si vous estimez, vous, le groupe de travail qui est renvoyé, que soit la procédure n'a pas été respectée, soit que si jamais c'était pour des raisons économiques qu'il n'y a pas eu autorisation du ministre de tutelle, à ce moment-là, vous êtes fondé à pouvoir saisir. Si vous êtes en province, l'inspecteur provincial du travail, ou à Kinshasa, l'inspection générale du travail. Et qui va procéder de la même manière pour conseiller les parties et en cas de chèque, dresser un procès devant de non-conciliation qui vous aidera à pouvoir aller saisir le juge du travail. Par rapport à la question de Rachel,
oui.
Vous demandez si en cas de détournement...
Est-ce qu'on peut virer, partir immédiatement le travailleur?
Ok, un détournement, c'est un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la faute lourde. Si l'employeur le constate, il a le droit de mettre immédiatement fin et sans préavis au contrat du travailleur auteur du détournement. Mais si jamais, dès lors qu'il a connaissance de ces faits, il laisse passer 48 heures sans le faire, là il ne pourra plus procéder au licenciement sans préavis pour faute lourde. Parce que vous avez 48 heures pour agir. C'est ce que la loi prévoit. Et ce que beaucoup font, c'est quoi? Dès que le fait est dénoncé, peut-être le temps de pouvoir enquêter et réunir les éléments de preuve, il peut suspendre le travailleur à titre conservatoire pendant 15 jours. Et dans les 15 jours, il doit s'assurer de tous les éléments de preuve. Et s'il trouve que le fait est évident et établi, à ce moment-là, il lève la suspension et licencie automatiquement le travailleur sans préavis. Mais s'il laisse passer ce délai, sans le faire et licencie pour faute lourde au-delà du délai que la loi prévoit,
oui.
Et là, la licenciation devient abusif et le travailleur peut user de toute la procédure que nous avons décrite tout à l'heure pour se faire indemniser en saisissant d'abord l'inspecteur du travail et ensuite le juge du travail.
D'accord. Yasmine Kachunga est à Kananga. Bonjour Yasmine.
Bonjour, aujourd'hui je suis à Kananga dans la province de Kasai-Occidental.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais poser une question à notre invité.
Oui.
Ma question est la suivante. Est-ce le contrat de travail peut revêtir ou comporter la même forme, le même fond pour toutes les entreprises? Et la deuxième question, c'est comme une sous-question à la première. Est-ce l'employeur peut avoir la latitude ou le pouvoir de se confectionner lui-même un contrat de travail à imposer à ses employés?
Ben, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du licenciement abusif, mais l'invité va quand même répondre. Merci. Oscar, vous êtes à Kananga aussi, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur Jody et bonjour à l'invité.
Nous parlons du licenciement abusif. Quelle est votre question?
Oui, monsieur Jody, j'ai une question très pertinente et d'ailleurs un cas que j'ai vécu moi-même dont un grand frère a été victime.
Oui.
Ma question est la suivante. Un grand frère travaillait dans une entreprise privée, il s'agissait bien sûr de la pharmacie, mais dans cette entreprise, l'employé qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir les licencier abusivement sans qu'ils même étaient innocents. Parce qu'il a constaté qu'ils avaient quand même leurs droits qu'ils méritaient.
Il a créé
un moment, il est venu là dans une pharmacie, il les a enfermés dans la pharmacie, il a dit nous devons faire l'inventaire aujourd'hui. En faisant l'inventaire, il a constaté qu'il y avait déjà fuite d'argent. Lui-même l'a déclaré. Et pour pouvoir pousser ses employés à consentir et à payer même les dommages qui étaient causés par une déficit dit à une mauvaise foi de leurs employés, il leur dit vous devez signer. Il a fermé la porte. Donc c'était en quelque sorte un licenciement abusif. Il les a dit vous devez consentir. Il les a forcés à pouvoir signer un document reconnaissant qu'il reconnaissait avoir une dette de ce monsieur-là de 3 000 $ qu'il devait à l'entreprise privée. Dans ce cas, je m'en vais poser cette question à l'invité. Dans ce cas, qu'est-ce que le grand frère peut-il faire pour s'en sortir dans cette situation parce qu'il est licencié abusivement pourvu qu'il ne puisse pas recevoir son décompte final?
Oscar, vous dites qu'il y a eu le propriétaire de la pharmacie les a enfermés pour faire l'inventaire et il a constaté qu'il y avait un déficit. Alors, où est parti cet argent-là?
Oui, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est venu faire l'inventaire? D'abord, le premier jour, il est venu lui-même, il a dit non, demain nous allons faire l'inventaire. Arrivé le lendemain, il est venu lui-même d'abord dans la pharmacie en l'absence de travailleurs. Il a travaillé pendant une journée. Le jour suivant, il le convoquera maintenant pour qu'il puisse passer à l'inventaire et créer une déficit. J'ose croire que c'est lui-même qui aurait pu prendre ces montants d'argent et créer ainsi un trou dans cette entreprise.
D'accord, merci. Maître Jean Keba, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ok, merci bien Doudou, Oscar pour la question. Bon, je commence par la précédente, par rapport à la forme et fond du contrat. Je crois que le contrat du travail n'est pas formaliste. Il n'y a pas de forme spécifique.
Standard pour tout le monde.
Ce qui importe, c'est que les deux parties s'accordent sur les droits de l'un et de l'autre et les obligations de l'un et de l'autre. Il est toujours conseillé au travail de pouvoir, chacun de pouvoir négocier son contrat de travail. Et c'est ça une faiblesse qui est constatée chez les Congolais. On comprend qu'avec les difficultés d'accès aux emplois, dès qu'il y a une opportunité, c'est l'employé qui prépare le test et votant, tu signes.
Sans prendre le temps de lire ou de demander, non.
Et dès que vous avez signé, vous êtes engagé.
Ouais.
Et généralement, c'est le même format qui est soumis à tous les travailleurs. Mais pour les gens qui ont une qualification, qui connaissent leurs valeurs, souvent quand ils sont appelés, ils posent leurs conditions, ils en discutent, et avant de pouvoir signer, ils font passer ce qu'ils veulent comme exigence, et l'employeur aussi en discute, ils arrivent à un accord. C'est ça l'idéal qui doit être en principe fait, mais généralement les gens se soumettent à ce qui est déjà préparé par l'employé parce qu'on n'a pas le choix, on est en position de faiblesse.
Oui.
Par rapport à la question d'Oscar, vous dites que au cours d'un inventaire décidé par l'employeur dans la pharmacie, il constate qu'il y a un déficit, donc il y a des manquants. Et de ce fait,
les 3 000 $.
Il contraint le travailleur à pouvoir signer un acte de reconnaissance
et d'engagement à pouvoir payer
les 3 000.
Oui.
Je pense que là, peut-être ce que votre frère peut faire, c'est quoi? C'est de saisir le parquet. Puisqu'il y a une infraction qu'on appelle l'infraction d'extorsion des signatures. Chaque signature doit être faite librement. Dès lors que vous êtes contraint à pouvoir signer ce que vous n'aurez pas librement signé, là, votre consentement a été faussé et vous pouvez voir le parquet qui peut vérifier. Mais ce qui fait, il y a aussi, bon, le même parquet peut ouvrir une enquête pour voir si jamais l'employeur avait eu accès à l'absence des travailleurs dans la pharmacie, il devra aussi être appelé à justifier pendant qu'il était là qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut avoir soutiré. Je crois que c'est le parquet qui peut aider à l'issue d'une enquête à pouvoir déterminer si c'est l'employeur ou le travailleur qui est responsable de cette disparition de la somme de 3 000 $.
Oui.
Et une fois que vous avez une décision de parquet, si jamais il constate que la signature qui avait été faite et qui avait été arrachée avait été en violation de la loi, il peut inculper l'employeur, c'est-à-dire le poursuivre pour extorsion de signature. Et là, ça la verrait. Le travailleur, pour pouvoir aller saisir l'inspection du travail du fait d'un licenciement abusif.
Voilà. Alors, Maître Jean, vous avez dit tout à l'heure, en cas de licenciement abusif, il faut aller voir l'inspecteur du travail qui va tenter une procédure de conciliation. Si ça marche pas, il va établir un PVD non-conciliation et puis le travailleur peut adresser une requête au juge du travail pour entrer dans ses droits. Mais généralement, les employeurs sont forts économiquement et ils arrivent même à acheter, à corrompre les inspecteurs du travail. C'est ce qu'on a souvent entendu les travailleurs décrier. Maintenant, si les inspecteurs sont corrompus, ils sont à la solde de l'employeur. Maintenant, à quel sens c'est voué?
Non, c'est une exigence de la loi. Et le travailleur, pour qu'il puisse être reçu devant le juge, il doit commencer par là. Il est vrai que dans la pratique, la plupart d'inspecteurs, dès qu'il y a une entreprise en bonne santé qui est traîné par devant eux.
C'est une occasion de se faire de l'argent.
Oui, ils marchent avec l'entreprise. Mais cela ne peut pas préjudicier les droits des travailleurs. Parce que cette formalité-là est exigée, c'est pour aider à ce que les travailleurs puissent trouver une solution rapide à leur litige. Mais si jamais il n'y a pas gain de cause, l'inspecteur peut être avec l'employeur, mais il est contraint en fin de compte de pouvoir dresser le procès vers une conciliation. Et tout ce qu'il aura pris comme conclusion ne guide pas, n'engage pas le juge. C'est devant le juge, le travailleur va revenir pour faire déballage de tout ce qu'il avait comme prétention, donner son argumentaire, et le juge devra maintenant décider sur base de ce qui a été développé devant lui. Le PV ne peut pas influencer le tribunal dans un sens ou dans un autre. C'est juste une exigence de la loi que chacun est appelé à pouvoir respecter, faute de quoi il ne sera pas reçu devant le juge du travail. Ça n'a pas un impact sur le fond du litige. Oui.
Donc en cas de licenciement abusif, il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre, voir l'inspecteur du travail, vous allez voir les juges jusqu'à ce que vous allez rentrer dans vos droits. Même si l'employeur est plus fort économiquement.
Oui, ce que nous pouvons aussi conseiller d'abord, c'est de chercher à consulter un technicien. Il peut s'agir d'un avocat. Il y a des organisations syndicales qui existent dans la ville, qui ont des personnes qui sont suffisamment formatées du droit du travail. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas des moyens de pouvoir engager les services d'un avocat, consulter un avocat, ils peuvent saisir les services de consultation gratuite des barreaux qui sont dans le ressort ou dans le milieu où ils habitent. Mmh. Et ces barreaux désigneraient un avocat prodéo qui sera appelé à pouvoir donner des conseils sans pourtant exiger un paiement. Ils peuvent aussi voir les organisations de défense des droits de l'homme qui sont spécialisées en matière de droit du travail, qui peuvent aussi utilement les aider par des conseils et pourquoi pas par un accompagnement juridico-judiciaire.
Bien, Maître Jean Keba, avocat près la Cour d'appel de Matadi, merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Je vous remercie.